y a bien des difficultés dans nos vies. Et la difficulté la plus importante, c'est peut-être notre relation aux autres. C'est jamais facile d'être en relation avec d'autres qu'avec nous-mêmes. C'est des fois difficile d'être en relation avec soi-même, mais avec les autres, on sent que souvent il peut y avoir des tensions, de l'agressivité, des conflits. C'est un des grands problèmes de notre vie. Et une des grandes questions, c'est de se dire, mais comment ne pas basculer dans la violence, dans la haine, dans le mal? Comment faire, surtout quand il y a des moments difficiles avec d'autres, des moments de conflit, comment faire pour ne pas plonger dedans, mais pouvoir les traverser? Quelle piste trouver? Quel chemin? Quelle possibilité il y a de pouvoir dénouer des moments de violence? Eh bien, cette question fondamentale dans le quotidien de chacune de nos vies, comme dans notre vie ensemble, dans le monde, à cette question fondamentale, eh bien, le récit que nous venons d'entendre donne des pistes que je voudrais partager avec vous ce soir. C'est un récit très connu, qu'on appelle donc le récit de la femme adultère dans l'évangile de Jean. C'est un récit qui nous présente une situation de très grande violence. Il y a beaucoup de couches de violence ensemble dans ce texte. C'est comme s'il y avait tout d'un coup toutes les violences qui existent, qui se trouvaient réunies en un seul moment. Alors il y a bien sûr, d'abord et principalement, la violence qui est là autour de cette femme. Violence physique d'abord, violence première, violence principale, parce qu'il y a là des hommes avec des cailloux dans les mains qui sont prêts à la lapider. Elle est en train de vivre peut-être ses derniers instants au milieu d'une foule assoiffée de sang, violence brute et directe de la violence physique. Il y a aussi un autre niveau de violence dans ce texte par rapport à cette femme, c'est la violence sociale, on pourrait dire, la violence qui environne ce qu'elle est dans une société, l'Antiquité du 1er siècle de notre ère, qui est une société très patriarcale et où la femme n'a pas la place d'un être humain comme les autres, c'est-à-dire comme les hommes. La femme est quelqu'un qui n'a pas d'existence en soi dans le monde du temps de Jésus. C'est toujours quelqu'un qui n'existe qu'en relation avec un autre, avec un homme, son père, son mari, son fils. Elle n'existe pas en soi. Et cette situation qui nous est présentée nous montre pleinement cette grande violence qui est faite à la place des femmes à l'époque, puisqu'elle est accusée d'avoir commis l'adultère, c'est-à-dire d'avoir quitté la place d'objet de son mari pour entrer dans une autre relation avec un autre homme, mais qui n'est pas là présent. Elle n'est pas pleinement à l'égalité, puisqu'elle seule et la projeter au milieu avec cette violence sociale autour d'elle, celle de la femme de son temps. Violence aussi de la solitude, parce que c'est toute seule qu'elle est présentée au milieu de la foule. Il n'y a personne pour lui parler, personne pour la défendre, personne même pour lui donner un nom. Elle est toute seule. Et puis violence encore par rapport à cette femme, d'être considérée comme un objet, parce que c'est pas tellement en fait une femme qu'on présente, c'est plutôt une adultère. C'est-à-dire quelqu'un qui a commis une faute et qui est enfermé dans cette faute, qui est ramené à cette faute, qui est comme un objet qu'on présente. Un objet dont on va se dire, ben, qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme si elle n'avait pas de personnalité humaine, cette femme, dans ce récit. Autour de cette femme, déjà, plusieurs couches de violence, plusieurs niveaux qui se concentrent, et c'est sa vie qui est en jeu. Alors on peut se dire, voilà, c'est l'Antiquité du 1er siècle, mais on sait bien qu'il y a bien des situations de violence qui ressemblent encore à ça dans notre monde, y compris la lapidation de la femme en cas d'adultère, mais aussi bien des situations de violence qui, comme ça, conjoignent à la fois de la violence physique, de la violence sociale, de l'isolement, et puis comme un objet maltraité au lieu de voir une personne. Premier niveau de violence. Il y a une deuxième couche de violence dans ce texte. Alors, je ne sais pas bien si on peut l'appeler violence d'ailleurs, mais enfin, parce que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'un acte volontaire pour faire du mal, mais c'est sans doute une violence présente par ceux qui la ressentent, une violence subjective, ressentie, et c'est aussi important parfois dans des moments de conflit, ce qui est ressenti comme violence. C'est celle que les scribes et les pharisiens peuvent ressentir. Alors, je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de leur trouver des justifications au fait de vouloir lapider quelqu'un, mais simplement de se dire, voilà, ce ne sont pas forcément des monstres. On a forcément assez rapidement tendance à penser que quelqu'un qui est dans la violence est quelqu'un de monstrueux, parce qu'on aimerait mieux que ce soit loin de nous, en fait. Et c'est une manière de repousser la question, alors que ce sont des hommes comme chacun de nous, c'est-à-dire qui, sans doute dans leurs gestes, expriment quelque chose d'un sentiment qu'ils ont, d'une violence qui leur est faite. Alors encore une fois, je ne sais pas si on peut l'appeler violence, mais se dire qu'ils ressentent quelque chose est important. Ce sont des hommes qui vivent dans un monde où les choses sont assez simples, en tout cas en théorie. Il y a ce qui est dedans et ce qui est dehors. Il y a ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Comment on doit se comporter, comment c'est mal de se comporter. Ils ne sont pas franchement complètement différents de nous, en fait. Leur monde est comme ça. Dedans, c'est bien, dehors, c'est mal. Dedans, c'est-à-dire là où nous sommes, finalement, puisque c'est toujours depuis soi-même qu'on donne ces éléments-là. Et donc, toute leur conception du monde est faite sur, voilà, il y a du pur et il y a de l'impur. Il y a des jours sacrés, le sabbat, et des jours profanes. Il y a des lieux sacrés, le temple de Jérusalem, il y a des lieux impurs. Il y a des personnes pures et des personnes impures. Il y a des hommes, il y a des femmes, enfin voilà, tout est comme ça. Et puis voilà soudain que cette femme vient ébranler leur système de représentation. Alors, sans doute dans leur trouble, dans leur colère, enfin ils perdent les moyens, et ils se disent voilà, enfin ils se disent, en tout cas ils réagissent comme ça, la seule solution c'est de s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, c'est la lapidation, qui est la manière de mettre à mort, qui dans un système où il y a du pur et de l'impur, permet de mettre loin de soi l'impur, de mettre à mort sans même toucher la personne, sans risquer d'être contaminé. Voilà ces hommes qui sont eux-mêmes pris dans un tourbillon de violence. Et puis troisième niveau de violence dans ce texte, c'est Jésus, qui se trouve au cœur de cette histoire. Il est en train d'enseigner dans le temple, il parle à des gens, et puis tout d'un coup, voilà, ces scribes et ces pharisiens qui viennent précipiter la femme au milieu et qui, autour de Jésus, mettent une pression terrible. On peut imaginer qu'autour voilà, autour de Jésus, il y a ceux qui l'écoutent. Alors jusque-là, il écoutait paisiblement. Mais comme il va être question de sang, de mise à mort, peut-être que ceux qui l'écoutent sont en train déjà de basculer, comme on sait qu'une foule est versatile et vite excitée par la violence. Il y a les scribes et les pharisiens qui sont là avec cette pression terrible autour de Jésus. Et puis il y a cette femme jetée devant lui, qui peut-être dans quelques minutes va être mise à mort. Voilà, Jésus est au milieu de ce nœud de violence. Ça se passe en plus dans le temple de Jérusalem, c'est-à-dire dans le lieu le plus sacré, dans le lieu où la question du pur et de l'impur est la plus sensible. Ce que Jésus va faire ou dire va être extrêmement exacerbé par tous ces gens qui sont autour de lui. Cette violence qui est autour de Jésus, parce qu'il est sommé de choisir son camp. Est-ce qu'il est pour les scribes et les pharisiens, donc pour mettre à mort la femme ? Est-ce qu'il est pour la femme, donc pour l'adultère ? Cette question lui est jetée dessus, et au milieu de toutes ces personnes qui vivent dans l'excitation, il est obligé de donner une réponse, vite, 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 une réponse dans l'urgence. Voilà, situation d'extrême violence que nous présente ce texte. Comme d'autres textes dans la Bible, il y en a plein en fait qui nous parlent de situations de violence. Et parfois on est un peu choqué par tous les textes dans la Bible qui parlent de violence, mais c'est parce que la Bible parle de nous en fait. Et que notre vie, elle est souvent dans des moments de tension, de conflit, de violence. Alors comme la Bible parle de nous, elle parle forcément de ce que nous vivons, nous traversons, elle nous parle à nous. À la fois pour dire ce que nous vivons, mais aussi pour nous proposer peut-être, et sans doute, et sûrement, un chemin à travers cette réalité. Parce que voilà, il y a de la violence extrême dans ce texte, à tous les niveaux, et comme il y a tous les niveaux à la fois, c'est quasi inextricable. Mais à la fin, il n'y a plus de violence. Il n'y a plus ceux qui accusent la femme. La femme elle-même est envoyée par Jésus. Il n'y a plus que Jésus tout seul. C'est le grand calme. À la fin de ce texte, il n'y a plus de violence. Alors du coup, la question pour nous, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que de cette situation de violence inextricable, il advient la fin de la violence, une situation apaisée et calmée? Qu'est-ce qui se passe? Et je vous propose de re-regarder ce texte, et notamment dans ce que fait Jésus. Il y a trois dimensions dans ce que fait Jésus dans ce texte qui me semblent extrêmement parlantes pour nous aujourd'hui. La première dimension, c'est ce qui m'a frappé en tout cas en relisant ce texte, c'est l'attitude physique de Jésus. Donc au début, il est assis, parce qu'il est en train d'enseigner à ceux qui l'écoutent. Le fait d'être assis pour enseigner, dans le judaïsme du 1er siècle, c'est la position du rabbi, c'est la position normale de l'enseignant. Il enseigne, il est assis. Imaginez la scène, il est donc assis, et tout d'un coup surgissent ces scribes et ces pharisiens qui jettent devant lui cette femme. Si on se mettait à représenter cette scène, si on avait le temps, on ferait ça, on dirait qui veut jouer Jésus, qui veut jouer les scribes, etc. On le mettrait en scène. Eh bien, à tous les coups, celui qui joue Jésus, qui est assis, voyant se précipiter sur lui des hommes en colère, se lève. C'est le réflexe normal. Se lever quand une violence nous tombe dessus. Et on sait que quand on se lève face à de la violence, eh bien, ça contribue à augmenter l'agressivité, et puis ça monte, ça monte, ça monte, et qu'en fait, ce n'est pas une solution. Eh bien, qu'est-ce que fait Jésus? Il ne se lève pas. Non seulement il reste assis, il laisse, on va dire, la violence se déverser sur lui, mais sans apparemment réagir, en tout cas sans surréagir, sans se dresser contre, sans l'alimenter, mais en plus, il se baisse et il écrit par terre. Il se présente dans la faiblesse, on pourrait dire. Il est dans une position où on peut l'assommer comme on veut, il est dans la vulnérabilité. Mais voilà, il ne se met pas dans une position où à la violence, c'est la violence qui va répondre et justifier la violence, qui justifie la réponse, et ainsi de suite, ce cercle vicieux. Je trouve cette attitude de Jésus, dans un premier temps, extrêmement importante pour nous, pour nous dire, voilà, dans combien de situations nous nous levons, en fait. Nous réagissons mal, instinctivement, mais malheureusement. Première attitude de Jésus, il s'abaisse. Et en s'abaissant, il permet déjà d'en partie dégonfler la violence qui surgit. Deuxième chose que fait Jésus, c'est que il ne se précipite pas dans la question piège qu'il y est tendu par les scribes et les pharisiens. C'est une question piège. Est-ce que la loi prescrit de lapider cette femme? Qu'est-ce que tu en dis? C'est une question intéressante sur le plan théorique. Et les juristes parmi nous adorent ce genre de questions. Il y a la loi qui dit quelque chose, il y a une situation, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on analyse ce qui se passe? Les circonstances, la personne, la jurisprudence, voilà, c'est une question très intéressante. Sauf que là, ce n'est pas une question où il y a le temps de réfléchir. C'est une question de vie et de mort. Ce n'est pas une question de colloque. C'est une question vitale pour la femme qui est là. En fait, Jésus est mis en demeure d'être le juge ou l'avocat, tout de suite, pour la femme ou pour les scribes et les pharisiens, contre la femme ou contre les scribes et les pharisiens, pour ou contre, de manière complètement binaire, de choisir son camp, et c'est un piège. C'est un piège parce que s'il approuve la femme, alors ça veut dire qu'il rejette la loi dans le temple de Jérusalem. Alors c'est lui qui mérite la mort. Mais s'il veut dire que la loi est bonne, alors ça conduit à la mort de cette femme. Quelle que soit sa décision, en fait, s'il dit oui ou s'il dit non, c'est la mort qui est au bout. Et voilà que Jésus, alors que nous, quand nous sommes sommés de dire dans quel camp on est, ben, sous la pression, on va d'un côté ou de l'autre, eh bien Jésus, lui, ne répond pas. Enfin, ou en tout cas, sa réponse n'est pas oui, non, pour ou contre. Il est fort Jésus quand même dans ce texte, enfin de manière générale, hein, mais dans ce texte en particulier, parce que sa réponse, c'est cette fameuse phrase que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est-à-dire qu'il ne dit pas ce qu'il faut faire, mais il invite chacun à aller au bout de sa conscience, de sa cohérence, de son geste, et à chacun de se positionner. Il prend un risque, hein, parce qu'il peut y avoir une première pierre qui est lancée. Il prend en même temps peut-être pas tant de risques que ça, parce que qui n'a jamais péché ? En tout cas, il ne dit pas « faites-le ou ne le faites pas ». Il renvoie chacun à soi-même. Il responsabilise, on pourrait dire, ceux qui sont là autour de lui. C'est un vrai risque, hein, parce que dans une foule assoiffée, c'est pas forcément facile d'appeler chacun à sa conscience. Et pourtant, au lieu de voir une foule, il parle à des personnes, à chacun. C'est pas en masse et en meute qu'ils sont appelés à agir, mais chacun, dans sa conscience. Et symboliquement, pour appuyer cela, il se baisse pour écrire par terre. Alors, ça a toujours beaucoup intrigué les gens, depuis 2000 ans, de se dire, mais qu'est-ce que Jésus peut écrire ? C'est la seule fois où on voit Jésus écrire, on n'a pas de mots écrits par lui. Pour une fois qu'il écrit, on ne sait pas ce qu'il écrit. C'est quand même dommage. Il écrit dans le sable. En fait, on ne sait pas vraiment s'il écrit ou s'il trace des traits. À la limite, peu importe, parce que ce n'est pas ce qu'il est en train d'écrire qui compte. C'est le fait d'être en train de dessiner sur le sable. C'est-à-dire, d'une part, il ne regarde pas ses adversaires dans les yeux. Il n'est pas en train de dire, voilà, je vous ai dit maintenant que chacun dans sa conscience, et puis je regarde comme un défi, savoir lequel va craquer le premier. Non, il ne les regarde. Il les laisse chacun aller à sa libre responsabilité. Et puis sans doute, ça fait écho pour ces scribes et ces pharisiens qui sont très versés dans l'écriture, à un passage de Jérémie. Jérémie qui écrivait, prophète donc dans l'Ancien Testament, « Ceux qui se détournent de toi, donc de Dieu, ceux qui se détournent de toi, ne sont que des noms inscrits dans la poussière. » Alors sans doute pour ces scribes et ces pharisiens, ça parle de se dire, voilà, on est appelé dans notre conscience, et en plus ce qui est en jeu, c'est peut-être de se tourner ou se détourner de Dieu. Alors comme ce sont des hommes pieux, sans doute, ça les travaille. Ils renvoient chacun à soi-même. On ne sait pas combien de temps ça dure, mais voilà que ça marche. Puisqu'au bout d'un moment, à partir du plus âgé, ils sont tous partis les uns après les autres. Deuxième attitude, donc, qui me paraît fondamentale de la part de Jésus, il ne tombe pas dans le piège du simplisme, oui ou non, pour ou contre, mais il appelle chacun, dans sa conscience, en situation, à se déterminer. Et puis, troisième attitude de Jésus, il se retrouve donc seul avec la femme, ils ne sont plus que deux, les accusateurs sont partis, du coup, l'accusation tombe. Saint Augustin écrivait au IVe siècle, il n'en reste que deux, la misérable et la miséricorde. Et pour Saint Augustin, c'était là le cœur de l'Évangile. La misère humaine et le pardon de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a là quelque chose qui est vraiment au cœur de l'Évangile. Dans l'attitude que Jésus a à ce moment-là avec cette femme. D'abord, il va lui parler. C'est la première fois que quelqu'un lui parle dans l'histoire. Jusque-là, personne ne lui parle. Elle est juste un objet. Là, il est dans une relation d'être humain à être humain. Il lui parle. Et puis, ce qu'il lui dit condense l'Évangile. Je ne te condamne pas. C'est-à-dire, tu n'es pas enfermé dans ce que tu as fait. Va et ne pêche plus. C'est-à-dire, tu es libéré. Tu peux reprendre ta route de vie. Mais sois responsable de ta vie, sois pleinement libre en fait. C'est une parole de grande confiance que lui fait Jésus. Cette femme, le texte ne nous dit à aucun moment si elle a demandé quoi que ce soit, si elle est méritante pour cela, si elle croit ou pas. On ne sait pas ce qu'elle va faire après, peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'elle était comme un objet et Jésus la rend à son humanité. Il ne parle plus d'une situation ou d'un cas. Il parle à une personne. Et ça, c'est extrêmement fondamental dans un moment de tension et de conflit où nous avons tous tendance à enfermer la personne, l'autre, dans ce qu'il a fait. Vous savez, on dit tout le temps, hein, Ah ben lui c'est un menteur, lui c'est un fainéant, lui c'est je sais pas quoi. Enfin bon, on enferme la personne et on la détermine. Et du coup, elle n'est plus libre, elle n'est plus une personne avec sa complexité. Elle est un acte. Voilà que Jésus distingue l'acte et la personne. Je ne te condamne pas, tu n'es pas enfermé dans ton acte. Va et ne pêche plus, tu es une vraie personne, libre et responsable. C'est déterminant ça, de distinguer entre les actes que nous faisons ou que les autres font et les personnes que nous sommes. Voilà trois dimensions que fait Jésus dans ce texte. Il ne se lève pas pour ajouter de la violence à la violence. Il ne tombe pas dans le piège pour ou contre, mais il renvoie chacun à sa conscience. Et puis, il distingue dans la relation entre la personne et ce qu'elle a pu faire ou fait. Trois dimensions qui sont fondamentales dans beaucoup de situations que nous traversons de tensions ou de conflits. Alors bien sûr, ce n'est pas une recette miracle. En tout cas, ce n'est pas un protocole, ce n'est pas un processus. Des fois, c'est plus compliqué, des fois, ça ne marche pas. D'ailleurs, Jésus lui-même va mourir sur la croix. Étienne, plus tard, dans le livre des Actes, va être lapidé, lui. Et puis l'histoire est faite de moments où la violence l'emporte sur tout, bien sûr. Mais ce n'est pas parce que ça ne marche pas tout le temps que ça ne marche jamais. Il y a des choses fondamentales qui nous sont dites dans ce texte, par Jésus et par son attitude. Il est possible. Non pas par notre instinct, qui lui est plutôt de se dresser, de choisir son camp et de continuer à enfermer quelqu'un dans ce qu'il a fait. C'est ça notre instinct. Il est possible, dans notre foi, de prendre une distance suffisante pour que soit dégonflée la situation de violence. Ce que fait Jésus dans ce texte, c'est ça. Alors qui maintenant peut le faire? Qui aujourd'hui peut faire ça? Eh bien je pense que c'est l'Église qui est appelée à faire ça beaucoup. Alors quand je dis l'Église, je ne parle pas d'une institution, je parle de nous en fait. Nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à le suivre, c'est-à-dire à vivre au mieux dans la cohérence avec ce qu'il a pu faire et dire et inviter à faire. S'il y en a qui peuvent peut-être essayer dans ce monde, ici ou là, d'être artisans de paix, de dégonfler des situations de violence, de permettre à des gens d'être restaurés dans leur dignité, c'est nous, Église de Jésus-Christ. Alors bien sûr, vous me direz, et vous avez entièrement raison, quand on voit l'histoire de l'Église, c'est quand même pas fameux sur la manière de résoudre la violence tellement souvent, et encore aujourd'hui, l'Église ou les Églises peuvent être non seulement complices de violence, mais actrices de violence. Quand elles sont en situation de pouvoir, en situation de dire ce qui est bien et pas bien, qui est dedans, qui est dehors, ce qu'il faut faire, pas faire, quand elles imposent des normes et qu'elles enferment donc des gens dans la manière de les faire ou de ne pas les faire. Nous sommes tous, dans notre humanité profonde, encore pécheurs, c'est-à-dire susceptibles d'être les scribes et les pharisiens. Mais dans notre foi, nous sommes appelés, avec le secours de l'Esprit, à prendre la suite de Jésus. C'est pas facile. Ça marche pas tout le temps. Et pourtant, c'est notre mission. Parce que chaque fois que nous pouvons ne pas nous opposer violemment à une situation de violence et la faire grandir, chaque fois que nous pouvons ne pas tomber dans le piège du simplisme, chaque fois que nous pouvons restaurer une personne dans sa dignité, alors nous améliorons grandement la vie. Et nous sommes témoins de Jésus-Christ, qui lui-même s'est abaissé à la croix, qui lui-même, en se relevant au matin de Pâques, a relevé des vies, qui lui-même s'est engagé dans notre monde pour y mettre un peu plus de paix et de justice, et qui nous appelle, nous, à nous engager à sa suite. C'est pas facile. C'était sans doute pas facile pour Jésus ce jour-là. C'est pas facile, mais c'est pourtant tellement essentiel. Alors, parce que c'est pas facile, que l'Esprit de Dieu nous aide, jour après jour et ensemble, à être à sa suite ces artisans de paix, de justice et d'humanité.